Vous écoutez On lit pour vous.
En juin, je lis Autochtones, des voix autochtones à mettre dans toutes les mains. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtones. Cette année, plongée dans la littérature autochtone. Voici cinq de nos suggestions écrites par des auteurs et autrices autochtones. 1. Nitisanak de Jas M. Morgan, traduction de Michel Plummer, édition Marchand de feuilles. Nitisanak de Jas M. Morgan rend un hommage à la famille, biologique ou choisie. Ce récit audacieux traverse des nations diverses, nous plonge dans l'intimité de l'amour et nous fait vivre la scène musicale punk des prairies, le tout tissé autour de la douleur qu'éprouve Morgan d'avoir perdu sa mère. Avec une honnêteté époustouflante, Morgan explore comment nos familles et notre communauté peuvent à la fois nous déchirer et être le lieu de toutes les guérisons. Par un procédé de narration cyclique qui puise dans les enseignements ancestraux Cree, Métis et Saulteau, cet ouvrage porte un regard sans complaisance sur les liens qu'il nous faut rompre et ceux qui nous permettent de grandir. 2. Si on me donne la parole, Domitila Barrios de Chungara, traduction de Louis Constant et Max Ogni, Éco-Société. Voici le puissant témoignage d'une femme autochtone dont la vie se confond avec la lutte des mineurs en Bolivie. Un récit universel qui montre le réel sens des mots « justice » et « émancipation ». Recueillis à l'époque par la journaliste brésilienne Moema Vietzer, les mots de Domitila sont précieux, tant il est rare que la parole soit donnée à une femme du peuple, une femme autochtone qui lutte pour son pain quotidien, se politise et prend l'envergure d'une leader populaire. 3. L'amour au temps d'après. Sous la direction de Joshua Whitehead, traduction de Sophie Voileau, édition Alto. Une IA dans un corps de rat se rebelle. Une adolescente est maintenue captive à bord d'une île flottante pour millionnaires survivalistes. La mémoire d'un peuple s'écrit spontanément sur la peau de ses Ikwewak. Une jeune fille bispirituelle rédige un manuel de survie à l'intention de ses semblables. À travers de bouillonnants récits d'anticipation, une chose a toujours le dessus, l'amour sous toutes ses formes. 4. Ouachtenam, allumer quelque chose, de Marie-Andrée Gill, La Peuplade. Dès le matin, la poète prend le monde à bras-le-corps et observe l'ordinaire et l'extraordinaire de chaque jour. Comme bon lui semble, elle parcourt le territoire avec la force de son corps et parfois celle du vieux pick-up de son oncle Bernard. Avec son franc-parler, Marie-Andrée Gill appelle à accepter notre époque comme elle se présente, en questionnant les frontières qui se dressent entre soi et quelque chose d'infiniment plus grand qui n'a pas besoin de nom. 5. La vallée de l'étrange, de G. D. Kurtness, Bibliothèque québécoise. Dans un avenir proche, une entrepreneure québécoise met en marché des petits robots capables d'apprendre et d'évoluer en fonction des outils d'apprentissage que leur fournissent leurs propriétaires, un peu à la manière d'un enfant ou d'un animal de compagnie. Dans ce roman qui prend des airs de fable, la technologie rencontre la nature humaine dans tous ses travers et offre une réflexion inédite, à la fois drôle et sombre, sur les enjeux liés aux dérives de l'intelligence artificielle. C'était, en juin, Je lis Autochtones, des voix autochtones à mettre dans toutes les mains. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtones.
Pour l'éveil des consciences. Un texte d'Axel Houlet, paru le 31 mai 2026 dans La Liberté. Dans Libération des intelligences, Mamadou Ndiaye invite à penser par nous-mêmes face au piège du conformisme et de l'intelligence artificielle. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère. une fois parce que la nature humaine nous unit, et une autre fois parce que tu m'apportes un autre aspect du monde. » C'est dans son ouvrage publié aux éditions L'Harmattan, « Libération des intelligences, une chance pour l'Afrique et pour le monde », que Mamadou Ndiaye cite l'auteur et historien malien Amadou Ampateba. Mamadou Ndiaye est consultant financier de formation et dirige son cabinet Katim Kafmi Incorporation, indépendant à Winnipeg. Avant de s'installer au Manitoba avec sa famille il y a 15 ans, il a notamment été directeur de l'agence de promotion des investissements et d'une institution financière au Mali. En décembre 2025, il publie son premier livre, Libération des intelligences. Après des événements organisés au Mali, en France et à Bruxelles, une séance de dédicace s'est tenue le 23 mai à l'accueil francophone, à l'initiative de l'Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba, en partenariat avec l'Association des Maliens au Manitoba. Le mois prochain, des dédicaces auront lieu à Ottawa et à Montréal. L'intelligence comme objet de réflexion. Mamadou Ndiaye propose ce livre comme une invitation à une réflexion collective sur une question fondamentale qui taraude les esprits. Est-ce que les humains aujourd'hui, nous agissons avec nos intelligences? Qu'est-ce qui ferait en sorte que les humains n'utilisent pas leur intelligence pour agir? Et de quelle intelligence parle-t-on? Telles sont les questions qu'aborde l'auteur dans son ouvrage. À titre d'exemple, il propose plusieurs dimensions du concept, telles que l'intellect, l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle ainsi que l'intuition, parmi d'autres. Dans son questionnement, l'auteur suggère ainsi trois pathologies qui inhibent l'utilisation de notre intelligence. D'abord, il y a la certitude, propose-t-il, car un principal ferment de l'intelligence, c'est de douter, de remettre en question. Il évoque aussi la titrisation. C'est le fait de donner des titres à des concepts, des idées ou des mots, de les encadrer comme dans des paquets fermés qu'on n'a pas le droit d'ouvrir ou de questionner. Avec la colonisation en Afrique, par exemple, si un système est qualifié de démocratie, alors tout le monde doit l'accepter comme tel. Et le dernier, c'est le binaire, évoque l'auteur. Soit on est dans le bon, soit on est dans le mal, soit on est démocrate ou on est dictateur, et ainsi de suite. Ça nous prive de toute la richesse du gris, des nuances qu'il y a entre le blanc et le noir. Pourtant, c'est la richesse du réel. Une pensée qui vient de soi. Libération des intelligences est son premier ouvrage, mais l'écriture n'est pas une nouveauté pour lui. J'ai toujours écrit dans le cadre de mon activité de consultant, explique Mamadou Ndiaye. C'est notamment une sagesse qui provient de l'expérience qui trace la ligne de pensée de l'auteur, qui décrit son livre comme le fruit d'un certain nombre de questionnements, d'expériences, de tout un parcours et de leçons tirées du monde d'aujourd'hui. Il nous en dit un peu plus sur le cheminement intellectuel qui l'a conduit à écrire ce livre, un projet qui lui tenait à cœur depuis plusieurs années. À l'approche de la retraite, j'avais accumulé un capital de questionnements, explique-t-il. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré tellement de personnes brillantes et intéressantes. Je me suis rendu compte que ce n'est pas l'intelligence qui fait défaut aux gens. Je me suis toutefois demandé s'ils exploitaient réellement tout leur potentiel. C'est une question qui m'a amené à beaucoup réfléchir. Les concepts abordés peuvent rappeler des notions philosophiques comme celle d'Emmanuel Kant, parmi d'autres, qui prônait la pensée humaine indépendante et l'utilisation du raisonnement dans le but de progression. Toutefois, sans formation philosophique ou littéraire, Mamadou Ndiaye évoque « Justement, le thème de mon livre, c'est que nous avons beaucoup pensé avec l'intelligence des autres ». Il ajoute « Les concepts dont nous disposons aujourd'hui ne sont pas neutres. C'est le produit de l'intelligence de quelqu'un. Les pays africains ont évolué pendant des années sans exploiter leur propre potentiel civilisationnel ou économique en raison de la colonisation. » Sur l'intelligence artificielle. Désormais, un autre enjeu se pose autour de l'intelligence humaine. Pour combler le tout, on a aujourd'hui ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, exprime-t-il. De nos jours, on a de moins en moins besoin de réfléchir avec notre intelligence, surtout la nouvelle génération, où on voit que la capacité de concentration est réduite. Il exprime l'urgence de s'adresser à plusieurs publics, notamment aux jeunes gens. Ils ont grandi dans un monde interconnecté, où il y a une abondance de connaissances et une agression de produits de l'intelligence des autres, rappelle-t-il. Il faut un réveil pour se rendre compte que chacun a la capacité de réfléchir par soi-même, d'utiliser sa propre intelligence et ne pas être le fruit de l'intelligence d'autrui, et surtout pas de l'intelligence artificielle. Mamadou Ndiaye laisse entendre qu'un deuxième tome de cet ouvrage pourrait voir le jour à l'avenir. Dorénavant, l'auteur exhorte le monde à exploiter son potentiel cognitif, à faire usage de son intelligence pour sauver notre humanité, confie celui qui se définit humblement comme un simple financier et non un philosophe. C'était « Pour l'éveil des consciences », un texte d'Axel Houlé, paru le 31 mai 2026 dans La Liberté.
Taquiner le poisson pendant son cours d'éducation physique. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 5 juin 2026 dans La Presse. Comment faire bouger les jeunes? Les amener à jouer dehors? À l'école secondaire de la Dauversière, deux professeurs d'éducation physique ont réinventé le bon vieux cours d'éduc, qui connaît un succès sans précédent. La presse les a accompagnés lors d'une sortie de pêche par un lundi après-midi ensoleillé. Les habitués du parc des Bateliers assistent à une scène inusitée. Une trentaine d'élèves du secondaire s'échangent tour à tour les 9 places disponibles en bordure de la rivière des Prairies, tout près de l'île Perry, dans le nord-ouest de Montréal. La majorité manie pour la première fois une canne à pêche et n'a même jamais attrapé un poisson. Ça travaille la patience. Ça peut aussi te servir dans la vie, je crois, être patient, confie Riyab Ouafik, élève de deuxième secondaire. La jeune fille répond aux questions de la presse tout en ayant un œil sur sa canne à pêche, espérant capturer un poisson. De son côté, Rim Lata doute fort de ramener un poisson aujourd'hui. « Je ne suis pas une pro dans ça. Il y a moins de chances que je l'attrape. » Poisson ou pas, elle aime néanmoins l'expérience au point de tenter sa chance un autre jour avec des amis ou des membres de sa famille. « L'école m'a fait découvrir la pêche. Ils me font aussi découvrir plusieurs choses, chaque jour. Moi, je trouve ça très intéressant et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais réessayer. » Lundi après-midi, toute la classe est rentrée bredouille à l'école. Malgré tout, l'activité s'est déroulée dans la bonne humeur. Des élèves ont même fait semblant d'avoir un poisson accroché à leur hameçon. Le groupe s'est déplacé à vélo, de l'école jusqu'au parc. Une promenade de 1,5 km où tous ont respecté les consignes, roulant en peloton, l'un derrière l'autre, avons-nous constaté. Berk! Des vers de terre. Une fois à destination, Guillaume Skelling, professeur d'éducation physique, montre aux élèves comment accrocher un ver à son hameçon. Un murmure de dégoût se fait entendre. Seulement 3 d'entre eux sont volontaires pour préparer les cannes à pêche et manipuler les vers. Ces 3 garçons, qui ont déjà pêché, font mentir nos statistiques, rigole M. Skelling, initiateur du projet. C'est lui qui a lancé l'idée d'amener les jeunes pêcher. J'ai eu la chance de me faire initier à la pêche quand j'étais jeune. C'était un de mes rêves de pouvoir le montrer à des élèves. Chaque année, on initie une 60aine de jeunes qui, pour la plupart, n'avaient jamais pêché de leur vie. Or, faire bouger les jeunes et surtout les convaincre d'aller jouer dehors représente tout un défi. Ça veut dire qu'on doit s'adapter et ne pas faire les mêmes cours d'éducation physique qu'on a connus, affirme Guillaume Skelling. Ce genre d'activité, c'est vraiment méditatif, c'est plus serein. On est loin des écrans, de l'intensité d'un sport traditionnel. Juste les exposer à ça, je trouve que c'est un succès en soi. C'est le contraire de TikTok. C'est long et il ne se passe rien, résume Guillaume Skelling. Les élèves qui fréquentent la classe des professeurs Skelling et Baron sont en grande majorité issus de l'immigration et ils vivent dans un quartier moins favorisé. mais les enjeux demeurent sensiblement les mêmes. La majorité de mes élèves, ce qu'ils vont faire de leur été, c'est de rester dans le sous-sol, scotchés devant un écran, mentionne Laurent Baron. Qui dit sortie de pêche, dit préparation. Et les élèves se sont préparés dans les semaines précédentes. Apprendre à faire du vélo pour ceux qui n'en avaient jamais fait, se déplacer en peloton et finalement pratiquer le lancer avec une canne à pêche dans un parc près de l'école. C'est peut-être plus de trouble que d'enseigner le volley-ball, mais on est ici aujourd'hui en plein air. Guillaume Skelling, professeur d'éducation physique à l'école secondaire La Dauversière. Il n'y a personne qui se plaint que c'est long, ce qui est quand même exceptionnel pour une activité aussi passive et contemplative, renchérit Laurent Baron. Voilà maintenant 4 ans que les deux profs organisent ces sorties de pêche avec leurs élèves et chaque année, ils forment de nouveaux pêcheurs. Chaque élève qui va chercher son permis de pêche, gratuit pour les moins de 18 ans, est récompensé et se fait remettre une canne à pêche et un coffre que les profs reçoivent de pêcheurs qui ont du matériel en trop. Pour les deux professeurs, c'est la récompense ultime. C'est mieux que n'importe quelle note à l'examen, souligne Guillaume Skelling. L'an passé, un élève nous a montré une photo d'un esturgeon qu'il a pêché, tout près du parc de la Visitation. Il était tellement fier, se rappelle Laurent Baron. Ce sont eux qui auront dorénavant des histoires de pêche à raconter, conclut M. Skelling. Une option plein air. L'école La Dauversière offre plusieurs options de programme à ses élèves, dont l'option plein air urbain. Environ 140 élèves y sont inscrits. Les cours d'éducation physique se déroulent à l'extérieur, même en hiver. Le plein air est aussi intégré dans d'autres matières pour ses élèves. C'était « Taquiner le poisson pendant son cours d'éducation physique », un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 5 juin 2026 dans la presse.
Qui lit encore le braille? Les nouvelles technologies permettent d'avoir accès à l'écrit autrement. Un texte de Catherine Lalonde paru le 5 janvier 2024 dans Le Devoir. Il n'y aurait à vue de nez que 50 à 70 personnes en train d'apprendre à lire le braille au Québec actuellement, selon les évaluations respectives du Service québécois du livre adapté et de l'Institut Narazet et Louis Braille, INLB. Un déclin certain. Mais c'est tendancieux de dire ça, rappelle Jeannie Lachapelle de l'INLB. Il y a 40 ans encore, avec une déficience visuelle, même si tu n'allais jamais développer une cécité, tu allais à l'école spécialisée apprendre le braille. Maintenant, on a plein d'autres moyens technologiques pour lire et écrire. Regard sur le braille d'aujourd'hui. Prends ma patronne. Elle a appris le braille quand elle était petite, raconte Jeannie Lachapelle. Elle ne s'en est jamais servie. Elle a une très bonne basse vision. Elle fonctionne en grossissement de caractère avec ses logiciels. Jeannie, elle, a perdu la vue quand elle était en deuxième année, à l'âge de 8 ans. Attends, ça fait 37 ans. C'est le meilleur âge. Tu es en plein apprentissage et tu as eu le temps d'apprendre à lire les lettres déjà. Aujourd'hui, quand elle pense à épeler un mot, elle l'imagine en lettres ou en braille. « Je suis assez unique pour ça », précise-t-elle. Jeannie Lachapelle, spécialiste en activité clinique, œuvre à transformer les livres, albums, manuels scolaires, examens et factures d'électricité en braille ou en documents numériques adaptés. Avec son service, elle produit à peu près 90 documents par année. Sur la table, devant elle, des albums jeunesse, en couleur. Un de la série des Émile, à côté de la Morvonnée d'Orbie. Sur chaque page a été collé un film transparent serti de petits points pour ajouter la version braille. On les appelle les duos médias. Moi, j'ai deux enfants voyants. C'était le fun quand ils étaient petits. Je leur lisais les histoires, ils regardaient les images et aussi l'imprimé pour apprendre à lire. Car pour ça, il faut qu'ils voient les lettres. Des pays et des eaux en braille. Est-ce que les images se font en braille aussi? Oui, mais c'est plus sommaire, répond Madame Lachapelle. Elle sort pourtant un atlas géopolitique, magnifique avec ses petits points frontières blanc sur blanc. Le papier est doux sous les doigts, très épais. À côté, un livre d'anatomie. Mains, phalanges, phalangines et phalangettes peuvent se voir du bout des yeux comme du bout des doigts. Certaines informations visuelles, comme celle-là, ne peuvent pas être transformées en texte pour la synthèse vocale. Comme les tableaux et graphiques à bandes ou linéaires des exercices d'un manuel de mathématiques. Parmi la production, un roman de Dominique Demers, relié dans un cartable blanc. Plus loin, des exemplaires d'un livre d'Éric Chacour et de la biographie de Clémence. Les livres sont énormes. Grosso modo, de 2,5 fois à 3 fois plus gros. Janie Lachapelle est une grande lectrice. En vacances, impossible d'apporter 4 ou 5 de ces très épais bouquins. Le braille papier tend à diminuer parce que la venue des technologies nous permet de lire des formats braille vraiment dédiés, comme celui que tu vois là, dit-elle en montrant l'écran de son ordinateur. Son clavier possède une rangée supplémentaire, un afficheur braille, tout en bas, où s'alignent des touches de 8 points. Chaque caractère en braille papier compte 3 lignes de 2 points, mais la version numérique du système d'écriture en ajoute une 4e pour transmettre plus d'informations, pour signaler une lettre majuscule, par exemple. La ligne s'active mécaniquement et lui permet de lire par les doigts ce que la journaliste lit à l'écran de l'ordinateur. Louis Braille ne le savait pas, mais son système, créé vers 1825, c'est comme du binaire. C'est très facilement compatible avec le codage, note-t-elle. Le braille du fakir. Pour apprendre à lire le braille, on peut commencer par des points plus gros, dit-elle en souriant devant la stupéfaction de la journaliste aux doigts gourds, qui ne sent nulle différence entre le A et le Z. Toute petite, j'ai commencé en positionnant 2 petits clous dans une planche à 6 trous. Parce qu'il faut à la fois reconnaître la combinaison des points et savoir comment s'est bâti un E. Le plus grand défi, c'est de discriminer les lettres tactilement. Après, pour devenir un lecteur fonctionnel, il faut gagner une certaine vitesse, toujours plus basse en braille. Un très bon lecteur braille peut lire entre 150 et 200 mots par minute, indique Madame Lachapelle. On a longtemps cru qu'un lecteur d'imprimé adulte lisait jusqu'à 350 mots par minute. La réalité oscillerait plutôt entre 240 et 260. Aujourd'hui, explique Janie Lachapelle, le mot d'ordre pour les enfants, c'est de faire entrer la synthèse vocale le plus tard possible, pour qu'ils apprennent à écrire. Pour écrire bateau et savoir qu'on doit écrire O-E-A-U, il faut l'avoir lu. S'ils ne passent pas par le braille, ils vont écrire au son. À l'inverse, si quelqu'un perd la vue à un âge assez avancé, on peut juger que les efforts pour apprendre le braille seront trop lourds. L'idéal, c'est le cocktail d'outils différents d'aide à la lecture, affirme Janie. Pouvoir passer de la synthèse vocale au braille, lire plus ou moins vite selon le genre et les besoins, et pour ceux qui ont encore des résidus visuels, jouer avec le grossissement de caractère. Quand on prépare un document, si je veux qu'il puisse resservir, on doit penser à tout notre monde. Nos aveugles, atteints de cécité, nos basses visions, Notre police de caractère est plate, c'est arial. On pense notre alignement, nos paragraphes, nos lignes, nos marges. Tout est espacé pour qu'il y ait de l'air, mais pas trop, parce que si tu grossis, tout grossit. Il faut un juste milieu. On en est aux lettres noires sur fond blanc. C'est très conservateur, mais beaucoup de gens qui ont une basse vision veulent une polarité inversée. Des lettres blanches sur fond noir, pour éviter les éblouissements, explique la coordonnatrice. Et le fichier comprend un document en braille, prêt à l'embossage. À l'arrière des bureaux de Longueuil, une embosseuse flambant neuve. On en a commandé deux l'été dernier. Elles viennent d'arriver. On a déballé celle-là il y a 10 minutes, explique fièrement Marc-André Rémillard, technicien braille, voyant. Sobre, grise, elle a un peu l'air d'une machine à téléporter de petits objets. Autour, des boîtes et des boîtes de papier braille. Une seule sorte. C'est un papier plus cartonné, explique-t-on au devoir. Des stéréotypes d'une autre sorte. Il faut une certaine densité de papier si tu veux faire du braille recto verso. Les côtés de ce papier sont perforés et ses feuilles sont liées les unes aux autres, comme celles destinées aux vieilles imprimantes matricielles. La traction est si intense pour embosser que, sans ça, sous l'impact, la feuille se promène, les lignes deviennent croches, le bas est plus effacé et deux lignes s'embossent l'une sur l'autre. Jenny Lachapelle rêve du jour où tous les livres seront aussi disponibles en format numérique accessible. Elle pourra alors dévorer les romans de la série noire avec son grand, comme elle le fait maintenant, mais tous les romans. La technologie le permet. Avant, les livres étaient retapés au poinçon. Après, c'était avec des machines qu'on appelait des stéréotypes, braille. C'était très automatisé. Une machine où on recopiait avec les pieds et les mains. C'était des aveugles qui faisaient ça, poursuit-elle. Et demain, l'intelligence artificielle arrivera peut-être à transcrire en voix les tableaux et illustrations que Jenny doit encore traduire aujourd'hui en braille sur papier. C'était « Qui lit encore le braille? » Les nouvelles technologies permettent d'avoir accès à l'écrit autrement. Un texte de Catherine Lalonde paru le 5 janvier 2024 dans Le Devoir.